Bonjour. On vient de parler de ses disciples. Ils étaient sur le chemin, ils marchaient avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ça ne vous a pas surpris, ça? Et moi, je me suis dit que dans ma vie, peut-être souvent, Jésus était à côté de moi, il me parlait, et puis je n'ai rien compris. Bon, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler ce matin. Jeudi, c'était l'ascension. L'ascension, c'est super, c'est un jour de vacances. Enfin, nous, on est toujours en vacances, ça ne change pas. L'ascension, ça vient du latin, ça veut dire monter, s'élever. Et l'ascension, c'est quelque chose qui est intéressant dans la société. On parle d'ascenseur social, on dit qu'il est en panne d'ailleurs. Ça fait rêver. Tout le monde y aspire. Dans toutes les couches de la société, dans tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, politique, artistique, ou même familial et religieux, la place au sommet attire. C'est vrai que c'est plus valorisant de survoler que de ramper. Et puis, quand on est tout en haut, on peut voir les autres de haut et c'est quelquefois ce dont l'homme aspire. Et cependant, même lorsqu'un homme est arrivé tout au sommet de l'échelle, sa fin reste la même. À part peut-être le faste de ses funérailles. On va quand même citer le cas d'un homme qui a eu un enterrement non pas de première classe, mais complètement hors classe. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Être enterré par l'Éternel, c'est pas être au-delà de la première place sur le podium. Mais bon, c'est pas notre propos aujourd'hui, même si le sujet pourrait être captivant. Aujourd'hui, l'être humain peut s'enorgueillir de toute sa science, de son évolution, mais il est dans l'impossibilité, non pas de monter, mais de s'élever jusqu'au ciel, de se transporter en présence de Dieu. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, deux hommes ont connu une réelle ascension. Dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, on lit « Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Et puis Hébreux nous rappelle que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Deux hommes qui sont montés au ciel de leur vivant. Mais le sujet du jour, c'est l'ascension du Christ. Alors, j'ai trouvé un texte, je vais vous le lire, c'est un texte qui me semble assez insidieux. La célébration de l'ascension n'a rien d'extraordinaire. À Noël, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement de Jésus. À Pâques, on annonce la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. À la Pentecôte, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement du Saint-Esprit. Ces événements sont importants pour le salut de l'homme. Mais l'ascension n'est porteuse d'aucune bonne nouvelle pour l'humanité. C'est un événement qui concerne Jésus et lui seul. C'est Jésus qui en s'en va, Jésus qui nous quitte. Qu'est-ce que vous en pensez? Et non, l'ascension, ça ne concerne pas seulement Jésus. C'est un moment important pour les disciples, pour le début de l'Église et pour nous aussi aujourd'hui. Souvenons-nous ce qu'il a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Non, l'ascension, ce n'est pas un adieu. C'est un retour vers Dieu, un retour à Dieu. Alors, que signifie l'ascension pour l'Église aujourd'hui? Et pour ça, on va lire la suite de ce que nous a dit Guy, Luc 24, à partir du verset 46. Il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père m'a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors nous, qu'est-ce que nous fêtons à l'ascension? Moi, je dirais que c'est une fête plutôt engageante pour les chrétiens. C'est un texte énergisant que nous avons lu. Et cet évangile se termine par un double mouvement. Jésus monte au ciel, c'est l'ascension, et les disciples sont envoyés vers les nations, c'est la mission. L'ascension de Jésus est essentielle pour notre vie quotidienne. En effet, Jésus est monté au ciel pour nous donner un nouvel élan. Un nouvel élan à notre existence. Si notre vie sur la terre a un sens aujourd'hui, c'est parce que Jésus n'y est plus. Il est monté au ciel, il est à la droite du Père. Et il règne éternellement. Et le mouvement de Jésus vers le ciel produit dans nos vies un mouvement vers une mission précise, vers une tâche extraordinaire qu'il nous a confiée en tant que ses disciples. Et cet élan, j'ai trouvé qu'il était soutenu par quatre forces qui s'unissent pour nous pousser à l'avant vers une direction précise. La première force, une nouvelle mission. Jésus donne une nouvelle mission à ses disciples. Vous êtes témoins de ces choses. De quelles choses ? De quels événements ? De la vie de Jésus, de ses souffrances, de sa résurrection, de son message. Alors bien sûr, les premiers disciples, en particulier les apôtres, ont joué un rôle unique dans l'histoire. Eux seuls ont vu Jésus ressusciter en chair et en os. Pourtant, 2000 ans après, la mission reste la même pour les disciples de Jésus. Le témoignage des apôtres a été inscrit une fois pour toutes dans l'Écriture. Alors pourquoi est-il encore besoin de témoigner aujourd'hui? On témoigne pour déclarer haut et fort le témoignage des apôtres est vrai. Ce qu'ils ont écrit dans la Bible a modelé ma vie. Jésus est vivant parce qu'il est la seule explication possible au déroulement de la vie que j'ai eue. Alors pour moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais jeune, mais j'avais conscience que mon cœur était foncièrement mauvais, même si ça ne se voyait pas parce que apparemment j'étais un gentil garçon. Et maintenant, je sais que Jésus a changé mon cœur, que je suis pardonné, j'ai la paix. Et depuis ma rencontre avec lui, je pense que j'ai plus les mêmes aspirations. Je voulais réussir, et je pense que mes objectifs ont changé. La réussite n'a pas été le but de ma vie. Et même si j'ai connu une certaine réussite, elle est venue à moi plus que je n'ai été vers elle. Comment expliquer cela ? Moi, je connais qu'une seule explication. Jésus est vivant, il règne, et c'est ce qui lui permet d'orienter le cours de mon existence. Alors nous tous, on n'a pas vu Jésus en chair et en os, mais on l'a vu agir en nous, dans nos vies. Et un témoin, c'est quoi ? C'est simplement celui qui dit ce qu'il a vu. Et c'est la plus belle des missions. En effet, cette mission nous rappelle, nous oblige à nous rappeler constamment ce que Jésus a fait pour nous. Et lorsque nous osons en parler, nous revivons la joie de nos premières rencontres avec lui. Alors la première force, c'est cette nouvelle mission. La deuxième, c'est que c'est un nouveau message. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus avait donné un message aux 72 disciples. Ces derniers devaient aller de ville en ville et dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Mais juste avant l'ascension, le message que Jésus confie aux disciples change un petit peu. Il est du moins formulé autrement. Il est clairement annoncé qu'il s'agit de la repentance en vue du pardon des péchés. Qu'est-ce que c'est la repentance ? La repentance, c'est un changement de vie profond. Se repentir, c'est reconnaître son péché avec tristesse, y renoncer et s'engager sincèrement à suivre Christ. C'est faire un virage complet. Or, parfois, je pense qu'on est coupable d'annoncer un évangile soft. Jésus t'aime, il veut régler tes problèmes, si tu veux bien l'accepter. Ce n'est pas tout à fait ça. Nous oublions parler de repentance. C'est pourtant l'essentiel. L'essentiel de la réponse attendue face à l'Évangile. Alors certains diront peut-être, le salut n'est-il pas gratuit ? Se repentir en vue d'être pardonné, ce n'est pas déjà accomplir une œuvre pour être sauvé ? En fait, je pense que dans toute la Bible, foi et repentance sont deux faces d'une même pièce. On ne peut pas les séparer. Il est impossible de croire en Jésus sans que ça change notre vie. C'est la raison pour laquelle Jésus peut résumer l'appel de l'Évangile par le mot repentance. La bonne nouvelle, c'est un appel à la repentance, à se détourner de son ancienne façon de vivre et à marcher d'une nouvelle manière avec Jésus. Et ce message est pour nous une force qui donne envie de témoigner. Alors dans la vie, il est souvent difficile d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais nous, c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée. La troisième force que j'ai repérée, c'est de nouvelles ressources. Et des nouvelles ressources, j'en vois au moins quatre dans ce texte. D'abord, la première, c'est que c'est le projet de Dieu. On a lu, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est comme une vague qui commence à Jérusalem et qui va envahir le monde. Jésus affirme que l'histoire, c'est une trajectoire divine. Elle progresse dans une direction précise, établie par Dieu. Ce projet était inscrit dans l'Ancien Testament. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et dans ce projet, trois éléments sont incontournables. Les souffrances du Christ, sa résurrection et la repentance prêchée à toutes les nations. Et au moment où Jésus s'en va, qu'il s'adresse aux disciples, les deux premiers événements sont accomplis. Le troisième, il va se réaliser. À partir d'Acte 10, avec l'épisode de Corneille, un non-juif, et jusqu'à aujourd'hui, les disciples de Jésus annoncent la repentance à toutes les nations. Or, cette annonce, c'est l'accomplissement du projet divin annoncé dans l'Ancien Testament. Dieu avait promis à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et un peu plus tard, il dit à Israël par la bouche du prophète Ésaïe, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon seul salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Or, qu'est-ce qui a rendu possible l'accomplissement de ces prophéties? C'est l'ascension. L'ascension de Christ, c'est son couronnement au-dessus de tout l'univers, de toutes les nations. Or, est-ce que vous souhaitez surfer sur cette vague de Dieu? Faites une chose, soyez un témoin actif. Où que vous soyez, quelle que soit votre occupation, peut-être vous rencontrerez des tempêtes, mais cette vague-là, elle n'est pas prête de disparaître. C'est un événement qui est annoncé discrètement il y a des milliers d'années avec la promesse d'Abraham, confirmée par Ésaïe. Mais cette vague de l'annonce de la bonne nouvelle aux nations, cette vague d'amour depuis l'ascension du Christ, s'est mise à atteindre tous les peuples, toutes les cultures, parce qu'il est maintenant évident, comme il est dit dans Acte 10, que Christ, Jésus, est le Seigneur de tous. Or, la deuxième ressource, c'est le nom de Jésus. On a lu que la repentance serait prêchée en son nom. Le nom de Christ, la personne de Christ, c'est toute l'autorité du Messie qui est élevée au ciel. Jésus nous envoie avec une autorité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas fondée sur notre personnalité et nos dons. C'est l'autorité de son nom. Son nom est tout puissant. C'est par lui que s'accomplissent toutes les voies de Dieu. La troisième ressource, c'est l'Esprit Saint promis, la puissance d'en haut. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce que le Père avait promis, c'est la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Nous qui sommes disciples, nous avons reçu l'Esprit lors de notre conversion. Quand nous parlons de Christ, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit donne les mots. Nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, ce qu'il promet. Alors pourquoi hésiter? On peut se demander, des fois, on est timide et on ne sait pas ce qu'on va dire. Jésus a dit « Je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister et les contredire. » Et la quatrième ressource, c'est la bénédiction de Jésus. Il les amena jusqu'à Béthanie, puis leva les mains et les bénit. Cette bénédiction qu'ont reçue les premiers disciples, juste avant l'ascension, nous y avons droit aussi, nous qui sommes engagés dans la même mission. Or, soyons réalistes, la mission n'est pas facile. Certains y ont laissé leur peau. Mais l'engagement dans le témoignage, quel que soit notre âge, notre occupation, est le fruit de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Jésus nous protégera, nous dirigera. Rien n'arrive dans nos vies qui ne soit permis par son autorité divine. Alors ça, c'était la troisième force. La quatrième, une nouvelle attitude. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Après l'avoir adoré. Cela nous semble si banal ou tout au moins normal. Nous adorons régulièrement Jésus par nos chants, nos prières. Pourtant, dans l'évangile de Luc, c'est la première fois que les disciples adorent Jésus. Ils ont eu besoin de 24 chapitres pour saisir son identité. Ils ont eu besoin de le voir manger du poisson grillé après sa résurrection pour y croire. Alors ça y est, maintenant c'est bon, ils ont compris. Jésus n'est pas seulement le Messie, il n'est pas seulement le grand prophète annoncé par Moïse, mais il est aussi le Seigneur de l'univers, Dieu lui-même, l'objet de leur adoration. Alors, leur attitude dans cette fin de l'évangile, ils éprouvent la joie débordante que procure l'adoration du ressuscité. L'adoration joyeuse, c'est à la fois la cause de l'évangélisation et son résultat. Quand on est rempli de cette joie que donne l'Esprit, on a envie de parler de Jésus, et quand on témoigne, l'adoration est encore ravivée. Or, pour conclure, par son ascension, Jésus nous transmet une quadruple force pour notre vie, notre témoignage, pour accomplir notre mission. Et c'est le message de ce matin. Mais l'ascension a aussi d'autres aspects. On ne va pas les développer aujourd'hui. On va juste citer. L'ascension, c'est aussi une promesse. Elle a une portée future. Il ne faut pas l'oublier, son retour. Dans le premier chapitre des Actes, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Puis dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'ascension, c'est aussi, et c'est Marc qui nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il nous est dit dans l'Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Puis l'ascension, c'est encore, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, pour nous souvenir de l'ascension, Jésus nous donne un élan nouveau. C'est une confirmation des promesses éternelles et il nous demande de contempler sa gloire à la droite du Père et quelque part de la partager et de ne pas oublier si comme moi, vous n'êtes pas parvenu à la perfection, je pense que c'est un secret pour personne ça, que nous avons un avocat auprès du Père. Amen.